ce big bang politique auquel j'aspire.
Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage.
Moi, parce que, mais oui, bien sûr,
moi, parti. Mais qui elle est, celle-là?
La gauche caviar découvre la tête de veau.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
De la poudre de perlimpinpin.
Je vous demande de vous arrêter.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce troisième numéro de Café Noisette sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Pour aujourd'hui, un tour d'horizon de l'actualité internationale, une plongée dans notre patrimoine et la découverte d'artistes engagés, une séquence de fact-checking et pour finir, quelques bonnes nouvelles nationales et internationales. Pour vous accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'être entouré de plusieurs chroniqueurs. Élodie.
Bonjour.
Romane.
Bonjour.
Ronan.
Bonjour.
Thomas.
Bonjour.
Lucie.
Bonjour.
Installez-vous confortablement, Café Noisette, c'est parti. Pour commencer, un regard sur l'actualité internationale. C'est une première dans Café Noisette, mais avec les élections municipales, nous sommes obligés de parler de l'international plutôt que du national. Et pour commencer, Élodie, qu'as-tu à nous dire ?
Aujourd'hui, dans le contexte des élections municipales, nous avons fait le choix de nous concentrer exceptionnellement sur l'actualité internationale plutôt que nationale. Notre premier sujet est central, aussi bien sur le domaine économique, militaire que géopolitique. Il s'agit en effet de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l'Iran qui a commencé fin février. En effet, les États-Unis ont effectué des frappes ciblées sur l'Iran le 28 février 2026 par une opération conjointe avec le gouvernement israélien. Le guide suprême Ali Khamenei, qui dirigeait la République islamique d'Iran depuis 1989, a été tué lors de ces frappes et le gouvernement iranien a répliqué en lançant des missiles balistiques et des drones sur des bases américaines au Moyen-Orient et en visant des infrastructures civiles au Koweït et aux Émirats arabes unis. Le Hezbollah au Liban a également attaqué Israël, qui a frappé le Liban en retour.
Et face à ces frappes et l'embrasement provoqué au Moyen-Orient, comment réagit la population états-unienne ?
Alors, certains états-uniens s'opposent de plus en plus aux politiques menées par Trump, notamment sur le plan migratoire, et la révélation du New York Times le 11 mars, selon laquelle les États-Unis auraient frappé une école iranienne et tué des centaines d'enfants avec des missiles, révolte encore plus les États-Unis puisque Trump viole les lois de la guerre en s'attaquant à des enfants, en plus de rejeter le droit international et cela pourrait influencer les midterms, les élections et les demi-mandats qui se déroulent en novembre.
Alors on comprend bien l'enjeu politique aux États-Unis, mais qu'en est-il de l'enjeu géopolitique, notamment autour du détroit d'Ormuz qui est fermé depuis le début de cette guerre ?
Eh bien, en effet, la fermeture du détroit d'Ormuz a de nombreux impacts. Effectivement, ce détroit stratégique situé entre l'Iran et Oman est essentiel pour le commerce mondial d'hydrocarbures car il relie les pays producteurs du Golfe Persique aux marchés internationaux. Chaque jour, l'équivalent de près de 21% de la consommation mondiale de pétrole y transite. Les pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou l'Irak auront beaucoup plus de difficultés à exporter leur pétrole, tandis que les pays consommateurs, notamment en Asie, feront face à des pénuries d'énergie. L'économie mondiale est donc touchée avec une augmentation des prix de l'essence, de l'inflation, un ralentissement de la production industrielle et des tensions sur les marchés énergétiques internationaux.
Bon, ok, je comprends mieux pourquoi je n'arrive plus à faire le plein. Et c'est donc un conflit qui inévitablement attire tous les regards médiatiques. Mais cela n'agit-il pas aux États-Unis comme l'arbre qui cache la forêt des autres actualités ?
C'est vrai, et c'est pour ça qu'il me semble important de rappeler que cette guerre en Iran, qui a déjà provoqué plus de 1500 victimes et 15 000 blessés, intervient dans un contexte politique et médiatique particulièrement chargé pour Trump, puisque 3 millions de documents concernant l'affaire Epstein ont été révélés par le ministère de la Justice états-unien. Ainsi, pendant que l'opinion publique internationale se focalise sur la guerre en Iran et la crise du détroit d'Ormuz, on détourne les yeux des révélations de l'affaire Epstein avec qui Donald Trump semblait entretenir des liens particulièrement étroits.
Alors nous parlions de la situation au Moyen-Orient à l'instant. J'aimerais que tu nous parles de la situation des femmes afghanes en ce moment, notamment vis-à-vis de la légalisation des violences conjugales.
Effectivement, alors que nous venons de mettre à l'honneur les femmes du monde entier en célébrant la journée des droits de la femme le 8 mars dernier, la gravité de la situation des femmes en Afghanistan alerte et rappelle que ces droits ne sont pas encore acquis partout dans le monde. Depuis le retour des talibans en août 2021, les droits des femmes afghanes n'ont cessé de se restreindre, après les avoir obligées à se couvrir intégralement, à sortir seulement en compagnie de leur mari et après leur avoir interdit l'accès à l'éducation, à l'emploi et aux espaces culturels, les talibans ont désormais promulgué en janvier 2026 un nouveau code pénal légalisant les violences conjugales au sein des foyers afghans.
Et quel est donc concrètement l'impact de ce texte sur la société afghane ?
Eh bien, en promulguant ce texte, l'Afghanistan hiérarchise les blessures, encadre la brutalité et institutionnalise une nouvelle inégalité juridique entre les hommes et les femmes. Cela fait scandale au sein des ONG de défense des droits humains qui soulignent qu'un chameau est désormais juridiquement mieux protégé qu'une femme contre les violences. En effet, des blessures à l'encontre d'un chameau peuvent valoir jusqu'à 6 mois de prison ferme, tandis qu'il n'est question que de 15 jours de prison concernant les violences envers les femmes afghanes. Non seulement ces violences ne sont plus uniquement tolérées, elles sont légalisées et institutionnalisées par un texte juridique. Les femmes sont en conséquence placées entièrement sous tutelle masculine. Un tel texte rend alors difficile le recours des femmes à la justice en cas de violence conjugale, d'autant plus que cette justice se montre fortement paradoxale. Lorsqu'une femme afghane se rend devant le juge pour dénoncer les violences conjugales qu'elle subit, les blessures doivent être visibles sur le corps ou présenter un degré de gravité important, comme la présence d'os brisés par les coups. Les femmes afghanes ont l'obligation de prouver au juge les violences conjugales subies en montrant leurs blessures, tout en restant entièrement couvertes, ce qui est paradoxal. Par ailleurs, pour se présenter au tribunal, elles ont le devoir d'être accompagnées d'un homme, très souvent leur mari, qui dans la majorité des cas est l'auteur des violences infligées. Les femmes afghanes ont donc affaire à une justice jouant entièrement en leur défaveur. Cette situation inquiétante interroge donc sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde, mais vient également souligner que les droits des femmes ne sont jamais pleinement acquis et qu'une journée comme celle du 8 mars permet de rappeler que les combats pour l'égalité entre les genres ne sont pas terminés.
Merci Elodie pour cette analyse. Et en ce mois de mars, nous restons avec la question de la lutte pour les droits des femmes, avec la chronique de patrimoine. Romane, tu voulais nous informer sur plusieurs événements en lien avec le 8 mars à Amiens.
C'est ça. Donc, comme l'a rappelé Elodie, on a célébré récemment la journée internationale des luttes pour les droits des femmes. En cette occasion, Amiens a mis l'accent sur les femmes ce mois-ci dans ses actualités culturelles. C'est pourquoi on vous invite à faire notamment le parcours urbain au féminin, présent pour tout le mois de mars dans le centre-ville d'Amiens. Ça vous laisse encore le temps pour vous y promener et surtout y découvrir 10 femmes qui ont marqué l'histoire d'Amiens. Elles ont des parcours assez différents, mais tous aussi impressionnants les uns que les autres, et elles sont bien trop peu mises en avant, c'est donc ici l'occasion de leur faire honneur.
Ça a l'air très intéressant, mais y a-t-il autre chose que ce parcours ?
Oui, il y a aussi une exposition qui s'appelle « Ma parole sur les fils », qui est visible au Centre culturel Étoile du Sud jusqu'au 28 mars, qui consacre l'égalité homme-femme. Des ateliers participatifs textiles, artistiques et réflexifs y ont été réalisés et ont permis la création d'étendards qui dénoncent les violences et inégalités subies quotidiennement par les femmes. Alors ces ateliers sont désormais terminés, cependant on vous invite grandement à aller voir l'exposition.
Effectivement, nous vous conseillons d'y aller, elle est très intéressante. Et Romane, pour la présentation d'un monument amiénois dans ta chronique, tu voulais nous parler de la fameuse Tour Perret d'Amiens.
Et oui, ce géant de béton qui surveille Amiens depuis plus de 70 ans. Alors pour bien comprendre ce monument, il faut s'imaginer la ville en 1944. Le centre-ville est un champ de ruines, tout est à reconstruire, et donc la construction de la tour est dans ce cadre financée par les fonds publics du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. C'est ici qu'entre en scène un homme, Auguste Perret, constructeur de la tour comme de la gare, dans un même projet architectural. C'est le maître du béton armé. Pour lui, le béton n'est pas un matériau moche qu'on cache sous du crépi, comme certains pourraient le penser. C'est au contraire une matière noble, une pierre moderne. Il veut offrir à Amiens un signal fort, une preuve que la ville se relève de la destruction, moderne et plus forte que jamais. Le choix du béton, vous vous en doutez, n'est pas anodin, c'est un défi technologique. Il existe à sa création des gratte-ciel plus hauts, aux États-Unis, mais cette tour est le premier gratte-ciel de béton de cette hauteur.
Alors justement, arrête-moi si je me trompe, mais j'ai bien l'impression, au vu des architectures de l'époque, que la construction de la tour Perret est une véritable prouesse.
Ah oui, c'était un choc visuel total. Les travaux débutent en 1948 et c'est le chantier de tous les superlatifs. Imaginez, on coule du béton à presque 110 mètres de haut. À son achèvement, en 1952, la tour Perret devient officiellement le plus haut gratte-ciel d'Europe de l'Ouest. Elle culmine à 104 mètres, repose sur ses 18 fondations de 9 mètres de profondeur chacune, et elle impose son style. Des lignes droites, une rigueur classique et ce fameux béton bouchardé qui imite la pierre pour un effet pur et glace. Elle sera la plus haute tour du pays pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que la tour Montparnasse ne vienne lui ravir son titre à Paris.
C'est assez fou de se dire que la tour Perret était un record européen. Toutefois, la tour a mis un certain temps avant de remplir son utilité initiale.
C'est sûr, ce beffroi laïque est une vraie prouesse technologique et un monument expérimental sans aucun doute. Au début, son architecte l'imagine devenir un immeuble résidentiel avec des bureaux. Mais sa construction coûte très cher, 225 millions de francs à l'époque. Ça provoque des loyers exorbitants, bien supérieurs au reste de la ville. En plus, il y a des problèmes d'acheminement d'eau. Les étages supérieurs ne peuvent pas accéder à l'eau potable. Face à ces difficultés, elle reste abandonnée pendant 7 ans. Alors son inutilité fait scandale et se sera débattue jusque dans l'Assemblée nationale. On pense à y établir les archives, voire à la démolir. Heureusement pour Amiens, elle finit par être rachetée en 1959 par Françoise Pory pour seulement 6% de son coût initial. Elle est donc réhabilitée en immeuble résidentiel et en bureau, après qu'on y ait installé un réservoir d'eau pour servir les étages les plus hauts de la tour, évidemment.
Et est-ce que la tour Perret est inscrite au monument historique ?
Oui, elle y est inscrite depuis 1975, mais attention, son histoire ne s'arrête pas là. À l'image d'un vrai beffroi, il y a une horloge dans les plans initiaux qui n'apparaît finalement pas sur la tour. Mais en 2005, on y ajoute un sablier lumineux de verre au sommet qui la rehausse de 6 mètres. Elle fait donc 110 mètres aujourd'hui. Et c'est ce bloc de verre qui va servir d'horloge.
Servir d'horloge, tu dis ? Est-ce que t'es vraiment sûr ? Parce que je l'ai regardé un certain nombre de fois cette tour et je n'ai jamais pu y lire l'heure.
Oui, mais alors, depuis l'installation, il y a eu plusieurs manières de lire l'heure. Revenons à l'origine. Au début, les panneaux de verre deviennent opaques au fil de la journée. On y lisait l'heure verticalement, en fonction du nombre de panneaux devenus opaques. Puis les demi-heures, quant à elles, se lisaient horizontalement et les quarts d'heure dans les coins. Mais c'était pas facile de s'y retrouver, alors aujourd'hui c'est plus simple. On y voit l'heure, mais seulement la nuit. Chaque ligne allumée représentant une heure écoulée. À minuit, ce sablier est donc complètement éclairé.
Eh bien, on essaiera de lire l'heure maintenant qu'on sait comment ça marche. Peut-on visiter la tour Perret ?
On a pu la visiter jusqu'en 1974, mais c'est plus possible aujourd'hui. Même s'il a déjà eu des portes ouvertes, ça reste très exceptionnel. Je sais cependant qu'il y a un appartement avec une superbe vue à 360 degrés sur Amiens. On peut d'ailleurs voir cette vue sur Internet, si ça vous intéresse. Mais il faut être prêt à payer le prix fort pour y dormir, plus de 400 euros la nuit. En résumé, bien que la tour soit aujourd'hui controversée, surtout esthétiquement, parce que c'est sûr qu'elle paraît moins moderne qu'à l'époque, c'est un symbole fort pour Amiens lors de sa construction. Elle reste bien sûr un élément immanquable du patrimoine d'Amiens, visible à 10 km à la ronde et largement connue de tous les Amiénois.
Merci beaucoup Romane pour cette chronique très intéressante du patrimoine amiénois. On marque une petite pause avec Zao de Sagazan et on se retrouve juste après.
Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie.
Nous revoici dans Café Noisette avec la chronique de l'artiste engagé, puisque nous allons rester avec Zao Tsagazan. Ronan, tu veux parler d'elle?
Et oui, comme tu viens de l'annoncer, notre choix s'est porté ce mois-ci sur Zao de Tsagazan. L'artiste de 26 ans aux 4 victoires de la musique s'est révélé au grand public en 2023 avec son premier album La Symphonie des Éclairs. Aujourd'hui, si nous parlons d'elle, ce n'est pas pour ses mélodies douces et ses sonorités électro qui ont conquis la France puis l'Europe, mais bien pour son engagement politique et artistique. Même si son engagement était plus à démontrer, elle s'est illustrée le 3 juillet 2024 à l'occasion de l'entre-deux-tours des élections législatives partielles. Elle se produit lors du grand meeting de Paris, place de la République, où elle interprète notamment sa chanson « Tristesse », dont elle prend le soin de modifier les paroles. De « qui va là, tristesse, dégage de là », elle la transforme en « qui va là, le RN dégage de là, l'extrême droite, je te déteste ». Au micro de l'Humanité, la chanteuse dit être profondément triste de la situation politique en France et face au risque de la victoire du RN au second tour des législatives, elle avoue avoir très peur.
Alors quelle est sa prise de position envers notamment la Macronie?
En juillet 2025, la chanteuse invective le président Emmanuel Macron suite à une vidéo où le président utilise sa chanson « La symphonie des éclairs » que nous venons d'écouter pour une vidéo de communication politique. L'artiste s'indigne de l'utilisation et rappelle dans un post Instagram au président de la République, je cite « N'utilisez pas les mots des artistes et vous n'agissez pas pour les vies qu'ils défendent. Nous ne sommes pas là pour enjoliver l'injonction. » Elle en profite pour rappeler la situation à Gaza où les populations meurent de faim et sont bombardées quotidiennement par le gouvernement d'extrême droite israélien. Elle rappelle que les crimes commis par le Hamas le 7 octobre sont atroces, mais ils ne peuvent justifier un massacre et ce que de nombreuses ONG comme Amnesty International et confirmé par la commission d'enquête de l'ONU sur les territoires palestiniens sous occupation estiment être un génocide.
Alors, on entend cet engagement sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il se limite vraiment à des posts Instagram?
Bien sûr que non. Son engagement ne s'arrête pas de simples posts sur Instagram. Fin septembre 2025, elle s'associe avec des dizaines d'autres artistes francophones comme Angel ou DJ Snake, pour ne citer que les plus connus, en signant un appel qui demande à la France de protéger la flottille de la liberté vers Gaza, dont l'objectif était de briser le blocus des forces d'occupation israéliennes. Des ressortissants français se trouvaient à bord de la flottille. Ils étaient menacés par les forces israéliennes d'être arrêtés en eau internationale et être ramenés pour être arrêtés en Israël. Pourtant, les eaux internationales ne sont une zone de non-droit où les forces d'un État ne sont pas censées agir selon le droit international.
Alors on le sait, en France, la prise de position d'artistes est rare. Que pense-t-elle du rôle des artistes sur cette question?
Sur cette question, nous la retrouvons le 28 décembre 2025, donc il y a quelques mois, au micro de France Inter. Zao de Tsagazan rappelle l'importance de l'amour dans ses valeurs. Pour elle, l'amour est partout et il doit être au centre de tout, et c'est le rôle des artistes de remettre l'amour au centre. Ce qui fait les êtres humains, pour elle qui a travaillé dans plusieurs années en EHPAD avant sa carrière musicale, c'est l'amour. On n'apprend pas assez aux gens à s'aimer dans notre société. Ceux qui veulent porter le contraire, qu'on doit se protéger des autres individus, ne sont là que pour diviser les gens. Dans cette même interview, elle rappelle que l'art et la culture est et doit rester politique. L'art est fait pour rassembler et il n'est pas là que pour distraire. Je la cite à nouveau. Tu ne peux pas être passionné de culture et en même temps lui chier dessus en politique. Ce n'est pas possible. L'artiste est là pour réunir et pour faire passer des messages. Et je pense que chacun a quand même une petite mission et je me suis toujours né un peu de cette mission-là. Il est important de rappeler aujourd'hui que l'art est politique et que tout est politique. Dans un monde où de plus en plus de personnalités publiques lissent leurs images par peur d'un bad buzz médiatique, il est essentiel d'avoir encore des artistes comme Zao de Tsagazan qui ne détournent pas le regard et utilisent leur exposition médiatique pour se positionner. Pour une note plus artistique, la chronique vous conseille la dernière sortie de Zao de Tsagazan, la version symphonique de son premier album La Symphonie des Éclairs, réalisée avec l'Orchestre Symphonique de Lyon. Dans cette version, elle s'éloigne de ses sonorités habituelles pour faire des tics plus dramatiques. En s'appuyant sur le classique, elle donne une nouvelle dimension à son album.
Merci Ronan, et pour terminer ta chronique, tu voulais faire un point sur les Jeux Paralympiques.
Et oui, pour terminer la chronique, le mois dernier, nous avions parlé des Jeux Olympiques. Ce mois-ci, nous tenons à féliciter nos athlètes paralympiques qui ont brillé lors de ces deux dernières semaines de compétition. La France ressort de cette Olympiade avec 12 médailles paralympiques et un objectif de 18 médailles était visé par la délégation. Un score qui peut paraître décevant, mais qui ne doit pas invisibiliser les performances majeures des athlètes de tous les pays. Bravo messieurs, dames.
Merci Ronan pour cette chronique d'artiste engagé. Nous passons à la chronique de fact-checking. Thomas, je me tourne vers toi. Tu voulais nous parler de la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens.
Bonjour Alexandre. Exactement. Un moment qui nous a particulièrement marqué le mois dernier, c'est celui-ci à l'Assemblée. Magnéto Serge.
Madame Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, désignait Israël comme ennemi commun de l'humanité.
Bon, déjà il y a de quoi partir avec un mauvais a priori sur Francesca Albanese, sans la connaître. Mais évidemment, si on parle de ce sujet, c'est qu'il est un petit peu plus subtil que ça.
Alors, avant de nous développer tout ça, est-ce que tu peux nous présenter Francesca Albanese ?
Francesca Albanese, c'est une juriste italienne, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens. Elle est donc très engagée sur la question du génocide à Gaza. Mais elle est sujette à beaucoup de désinformations et de controverses, surtout, il faut le dire, de la part de médias et d'organisations pro-israéliennes.
Ok, et donc, quel est le contexte de l'extrait que tu nous as fait écouter ?
En fait, l'extrait qu'on a retenu ici, c'est issu d'une séance de questions au gouvernement du 11 février à l'Assemblée, dans laquelle Caroline Yadan demande à notre ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'il allait demander la démission de Francesca Albanese suite à ses pseudo-propos qualifiant Israël d'un ennemi commun de l'humanité. Et il est là le problème, c'est que ces propos, ils ont largement été déformés. Voici ce qu'elle dit réellement, je vais vous le citer en français, pas en italien, je vous vois venir. Le fait qu'au lieu d'arrêter Israël, la plupart des pays du monde, les armées, lui aient fourni des excuses politiques, ainsi qu'un soutien économique et financier, est un défi. Le fait que la plupart des médias dans le monde occidental amplifient le discours pro-apartheid, le narratif génocidaire, est un défi. Car si le droit international a été poignardé en plein cœur, il est également vrai que jamais auparavant, la communauté internationale n'a connu les défis auxquels nous sommes tous confrontés. Nous qui ne contrôlons pas de vastes capitaux financiers, ni les algorithmes, ni les armes, constatons désormais qu'en tant qu'humanité, nous avons un ennemi commun.
Alors, on entend cette citation que tu nous fais d'elle. Quel est donc le constat que l'on peut en faire ?
Bon, vous voyez que la polémique autour de ces propos, elle est totalement infondée. On est même carrément dans de la post-vérité. Et ça n'a quand même pas empêché Jean-Noël Barrot de tout de même demander sa démission, se fondant toujours sur les propos antisémites qu'elle aurait tenus s'agissant du 7 octobre et de son traitement médiatique.
Mais qu'a-t-elle dit le 7 octobre ?
Elle a précisément évoqué le fait que les victimes n'avaient pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais plutôt en réaction à l'oppression, tout en condamnant l'attaque ainsi qu'en adressant ses pensées aux victimes. Donc concrètement, rien d'antisémite. Véritablement, Albanese critique un système politique, économique, médiatique, qui empêcherait la condamnation d'Israël et favoriserait la poursuite de la guerre. En fait, elle condamne plus l'influence des médias sur notre esprit critique, plus qu'Israël. Et personnellement, je vois pas de mal à ça.
Thomas, tu nous parles également aujourd'hui de l'international marocain du PSG, Achraf Hakimi.
Exact. Pour ce deuxième sujet, je voulais vous parler d'une ordonnance de renvoi toute fraîche rendue par le juge d'instruction du parquet de Nanterre à l'égard de l'international marocain du PSG, Achraf Hakimi. Bon, alors avant de rentrer dans le dur, pour les plus juristophobes d'entre nous, une ordonnance de renvoi, qu'est-ce que c'est ? Bah, tout simplement, l'ordonnance de renvoi, c'est la décision que rend le juge d'instruction à la suite de l'instruction d'une plainte. En bref, le juge, après une grosse enquête, dit « on n'a pas les éléments nécessaires, les preuves quoi, pour condamner le potentiel coupable après un procès où elle pourra se défendre des faits ». C'est l'ordonnance de non-lieu. Sinon, le juge d'instruction, s'il a des éléments pouvant laisser penser que la culpabilité du prévenu est avérée, rend une ordonnance de renvoi. Mais de renvoi devant qui ? Devant les juges du siège, qui rendront alors une décision de justice.
Ok, et peux-tu donc nous parler du procès envers Hakimi ?
Exact. Bon, alors, s'agissant du procès... Après quasi 3 ans d'instruction, Hakimi vient d'être renvoyé devant la cour criminelle des Hauts-de-Seine pour viol. Attention, ici, il faut le préciser, le prévenu, tant qu'il n'est pas condamné, est présumé innocent. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut ériger la victime comme une menteuse, ce qu'on va voir ici. Mais, comme le défend plusieurs associations de victimes, exercer une sorte de corollaire et la croire, la soutenir dans son procès.
Et quelle est donc l'infox qui concerne ce procès ?
L'infox ici ne réside pas dans les accusations de viol qui auraient été perpétrées par Hakimi, comme voudraient le faire croire les groupes masculinistes de X, anciennement Twitter, mais plutôt dans le mythe bien trop souvent croisé, le cliché de la femme vénale cherchant à dépouiller l'homme de ses biens et de sa notoriété durement acquis en portant plainte. D'abord, la banderole des ultras du PSG disant, je cite, « Hakimi total soutien », qu'on pourrait trouver déplacé, mais c'est surtout sur les réseaux qu'un déferlement de haine à l'égard de la victime a lieu. Pourtant, rien n'indique que la victime aurait menti, au vu de l'ordonnance de 21 pages qui revient en long, en large et en travers sur la chose, en expliquant que même si une victime ne souhaite ni subir des examens médicaux légaux, ni avoir son téléphone fouillé par la police, ça ne fait pas d'elle une menteuse. Et je pense qu'il faut s'attarder là-dessus. C'est une des caractérisations de la misogynie systémique de notre société. On pense de facto que la victime fait ça par intérêt. Donc notre boulot, ça va être de remettre de l'ordre dans tout ça.
Alors, as-tu des chiffres pour étayer cette argumentation ?
Mais bien sûr, Alexandre. Déjà, il faut savoir que moins de 1% des plaintes pour viol aboutissent à une condamnation en France. Alors même que plusieurs dizaines de milliers de viols sont signalés chaque année. Par exemple, on comptait environ 35 000 viols enregistrés par les autorités pour seulement 1 400 condamnations sur la période 2011-2020. Ce qui montre l'énorme écart entre les faits dénoncés et ceux effectivement sanctionnés. Et même pire, en France, une étude de l'INSEE de 2020 portant sur 1500 affaires de violences sexuelles a estimé que seulement 2,8% des plaintes étaient fausses. On est donc vraiment bien loin de ce que peuvent prétendre les groupes masculinistes haineux.
Merci beaucoup Thomas pour cette chronique de fact-checking. On marque une pause musicale et puis après on se retrouve au lendemain de la Saint-Patrick. On vous propose l'interview du professeur Patrick Lehing.
Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, combattant les étiquettes qu'on me colle, oubliant tes mains comme un coma. Tu m'as dégoûté, oui, mais c'est comme mauvais pressentiments viennent OCM. Suite à quoi tu grandis certes, mais tu t'aimes moins. Mais tu t'aimes moins. Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, essayant d'aimer la vie comme je l'adorais, allumant la télé, t'es encore là. Car la terre est peuplée de milliers de connards, voulant faire l'amour joliment mais c'est trop tard. Passé 20 ans j'en pleure encore sur le trottoir, sur le trottoir. Et tu attends 3 ans, 10 ans, tu fais semblant sous tes vêtements. Quand je dis tu, c'est pour dire moi, évidemment. Évidemment. Je me sens nue, je me suis tue, ce jour-là m'a tuée. Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, sanglotant parfois dans les bras de Victoria. Je te jure que j'ai dit non, je l'ai dit qu'une fois. Ça n'a pas suffi donc il a fini sur moi, se croyant sûrement puissant du genre Superman. Il n'a vu ni mon dégoût ni mes sueurs froides. Et c'est comme ça. Toute ma vie je serai coincée dans ce corps, celui dont j'ai pris peur dès lors qu'il se forme. Devant la glace, je suis laide moi. Et la jolie fille sur les réseaux ne m'aide pas. Voulant bien faire, j'ai donc sauté quelques repas. Passé 20 ans, je t'en veux car j'ai perdu du poids. Perdu du poids. Et tu attends 3 ans, 10 ans, tu fais semblant sous tes vêtements. Quand je dis tu, c'est pour dire moi, évidemment. Je me sens nue, je me suis tue, ce jour-là m'a tué. Dans ce corps, aujourd'hui je sais pourquoi je n'abandonne pas. Ma rage est ici, dans l'estomac. Me rendra si forte, me consolera. Pas question que tous ces dégâts.
Nous revoici dans Radio Campus Amiens après cette petite pause avec Zélie. Vous êtes dans l'émission Café Noisette, l'émission des étudiants en sciences politiques d'Amiens. Et je vous parlais juste avant la pause d'une interview avec Patrick Lehing, qui est un professeur de sciences politiques nationalement reconnu pour son expertise sur la sociologie électorale et notamment sur la question des élections municipales. On se retrouve juste après cette interview, à tout de suite.
Bonjour Monsieur Lehing, merci d'avoir accepté cette interview pour Café Noisette, l'émission de l'Association des étudiants en sciences politiques d'Amiens. Tout d'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter à l'ensemble de nos auditeurs.
J'étais jusqu'à une date récente, il y a 4 ans, professeur de sciences politiques à Amiens. Et d'ailleurs, j'ai fait mes études à Amiens. J'étais ensuite nommé à Saint-Quentin-en-Yvelines et je suis revenu les 15 dernières années de mon activité. Et je dois dire que j'ai été l'un des membres cofondateurs et bienfaiteurs de votre association. Mais ça remonte à beaucoup d'années, je n'ose dire combien.
Alors vous êtes reconnu nationalement pour vos travaux sur la sociologie électorale, notamment par un ouvrage qui est sorti en 2011, sur le vote. Et donc dans le contexte actuel des municipales, est-ce que vous avez pu remarquer à Amiens ou ailleurs des dynamiques nouvelles, des phénomènes qui sont propres à ces municipales de 2026?
Bon, il faudrait un peu plus de recul, mais il me semble que par rapport aux dernières élections municipales, qui elles-mêmes avaient eu lieu, vous vous en souvenez peut-être, dans un contexte très spécial, hein, puisque 3 jours après le premier tour, c'était le confinement, on était en pleine pandémie, le deuxième tour a été reporté de 3 mois, donc on avait des élections qui étaient un peu spéciales. Mais par rapport à ces élections précédentes, il me semble d'abord qu'il y a un recul des listes citoyennes. On peut pas pas dire apolitique, mais enfin, il y avait à l'époque une très forte défiance vis-à-vis des partis politiques, et il semble que cette défiance ait reculé. Je trouve que les partis politiques ont un contrôle plus important sur la confection des listes, sur la structuration des enjeux. L'accent a été beaucoup mis sur les prétentions du Rassemblement National, le nombre de listes qu'il pouvait présenter, la question dite des brebis galeuses, etc. Donc on a eu une focalisation très importante, dans la perspective évidemment, des présidentielles sur le Rassemblement National. Je trouve qu'il y a eu également une assez forte nationalisation de la couverture médiatique, alors même qu'on vient juste d'avoir un sondage, il est paru dans Le Monde d'aujourd'hui, qui montre que les trois quarts des électeurs vont se décider en fonction d'enjeux purement locaux et en ne tenant pas compte hein, de l'étiquette politique ou des clivages nationaux, de la politique de M. Macron ou des discours de Jean-Luc Mélenchon.
Et donc, au vu de ce constat qui vous pousse à penser que l'élection municipale est très localisée en termes d'enjeux, est-ce que pour vous c'est justifié cette idée selon laquelle les résultats seront déterminants pour les choix qui seront faits pour les présidentielles et pour les perspectives de futurs présidents ou présidentes ?
Ça va être très compliqué parce que j'avais écrit un article là-dessus qui s'appelait « Mais qui donc a gagné ?» et qui était axé sur la question de ce que j'avais appelé les effets de verdict. Donc l'idée qu'il y a toujours trois tours aux élections, il y a les deux tours normaux et un troisième durant lequel des exégètes, des commentateurs, des politologues, des sondeurs, etc. se posent gravement la question de savoir qui a gagné. Et finalement ce troisième tour il est aussi important que les deux premiers. Or s'agissant des élections municipales, ça va absolument pas de soi que de désigner un vainqueur. Parce qu'il y a simplement 35 000 compétitions, dont 25 000 passent complètement à la trappe. Ce sont les élections municipales dans les petites communes, ce qui est un peu dommageable parce que c'est là que la participation électorale est la plus forte. Et ensuite, en fonction du nombre de voix, du nombre de municipalités perdues, des plus ou moins grandes municipalités symboliques qui vont être soit gardées, soit conservées par tel ou tel parti politique, vous aurez une sorte de concurrence entre interprètes pour savoir qui a gagné. Il y a donc un bel et bien un effet de verdict, hein, qui signale bien d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler l'incomplétude des procédures électorales. C'est-à-dire les électeurs viennent à peine de se prononcer, mais on le sait bien de façon anonyme et muette, puisqu'il y a secret du vote, qu'il faut leur faire dire ce qu'ils viennent de dire. C'est ça finalement la question de l'interprétation des résultats qui n'est évidemment jamais objective et c'est presque un objet d'étude que de regarder le soir du premier tour, du deuxième tour et dans la presse du lendemain les différentes analyses, les différentes interprétations des différents concurrents, des différents politologues.
D'accord, merci beaucoup monsieur Leung pour cette petite interview. Voilà, c'était l'interview de Patrick Leung. Je précise par ailleurs qu'il a été professeur à Amiens, petit palmarès du coin. On passe à la chronique de Good News International avec Lucie. Nous avions évoqué le mois dernier les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, Lucie, tu voulais nous parler des Jeux Paralympiques.
Eh oui, il commence à faire beau. On voit le printemps arriver à Amiens, ce qui est déjà une très bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier que les Jeux Paralympiques d'hiver viennent de finir le 15 mars dernier. Alors, je voulais vous faire un petit récapitulatif des moments marquants. Comme toujours, les athlètes nous ont fait passer par mille et une émotions, joie, peur, fierté. Et ça a été un moment fort pour beaucoup de monde. Tout d'abord, l'athlète suédoise Ebba Arjo, de nouveau championne en paraski alpin. Son talent et sa détermination ont même été vus par la princesse héritière Victoria de Suède, qui a observé l'obtention de ses médailles avec fierté. Ebba est LA sportive suédoise marquante, et pour moi-même, la sportive de ces Jeux paralympiques. Elle a remporté 3 médailles d'or et une de bronze, une superbe nouvelle pour la Suède.
Mais alors Lucie, qu'en est-il des performances des athlètes français ?
On peut aussi féliciter nos athlètes, en particulier le parcours de Arthur Baudet, athlète français en paraski alpin également, qui, au lendemain de ces Jeux, repart maintenant avec 8 médailles paralympiques. Enfin, pour ce premier thème de la Good News, je voulais parler de l'athlète Oleksandra Kononova, qui remporte une médaille d'or en sprint dans la discipline du biathlon. Mais surtout, sans vouloir faire de concurrence à ta chronique, Ronan, il s'agit d'une artiste engagée. À la fin de sa performance sur le podium, on a pu la voir porter des boucles d'oreilles avec l'inscription « Stop War » en référence à la situation de son pays, l'Ukraine.
Cette histoire nous rappelle évidemment celle de Vladislav Erakevich, dont nous avions parlé le mois dernier, et qui avait refusé de retirer son casque sur lequel étaient collées des photos d'athlètes ukrainiens tués pendant la guerre russo-ukrainienne. On passe maintenant à ton deuxième sujet de chronique, Lucie, et tu vas nous parler de l'IVG dans l'Union européenne.
En effet, quelques jours avant la journée internationale de lutte pour les droits de la femme du 8 mars, la Commission européenne a le 26 février 2026 adopté l'initiative citoyenne européenne intitulée « My Voice, My Choice ». Cette initiative avait été largement signée dans toute l'Union européenne par plus de 1,1 million de personnes. Le but de cette initiative est de rendre l'avortement sans danger accessible en Europe. Cette bonne nouvelle permet de mettre en avant les droits des femmes et l'importance qu'ils devraient prendre à l'échelle européenne mais aussi internationale. Dans une dimension nationale, la France avait, elle, renforcé la protection de ce droit en l'insérant dans sa constitution le 8 mars 2024.
Et alors, quelle est la portée de cette initiative ?
Cette initiative marque un symbole de lutte contre le demi-million d'avortements non sécurisés en Europe recensés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc le Fonds social européen a pour but de financer l'amélioration de l'égalité d'accès à des services de soins de santé légalement disponibles et abordables, notamment des services d'interruption de grossesse sans risque.
Et alors, le droit à l'IVG fait-il l'unanimité en Europe ?
Malheureusement non. L'intervention volontaire de grossesse au sein de l'Union européenne ne fait pas l'unanimité. Seuls 25 États sur 27 l'autorisent et certains mènent des politiques très restrictives à son encontre malgré l'autorisation, comme en Hongrie depuis l'arrivée de Viktor Orban au pouvoir.
Et on gardera un œil sur cet événement en Europe. On va quitter l'Europe pour trouver un animal très connu ces dernières semaines, Punch.
Enfin, notre dernier sujet, vous n'avez pas pu passer à côté de ces images sur votre téléphone, celle d'un bébé singe qui s'accroche à une peluche orang-outan. Ce bébé macaque s'appelle Punch. Il est né en juillet dernier au zoo d'Ishikawa au Japon. Il a d'abord été rejeté par sa mère à la naissance et réintroduit depuis janvier dans l'enclos des macaques. Punch a ému la toile après avoir été malmené par ses congénères.
Mais ce n'est qu'une querelle de primates, en quoi est-ce important ?
Eh bien, c'est bien plus compliqué qu'une simple querelle de primates. On parle ici de bien-être animal, car derrière sa complicité avec sa peluche et les soigneurs, qui nous rappellent nos propres instincts humains, les internautes ont commencé à s'interroger sur les conditions de vie réelles des animaux en captivité. La pauvreté des enclos sans verdure, ni stimulation, l'instrumentalisation de la souffrance animale à des fins commerciales. Parce que, détail inattendu, les peluches de Punch viennent de chez IKEA. Et depuis, la marque, comme d'autres, dont Skip ou encore Crocs, ont réalisé des spots publicitaires mettant en scène le petit singe, tentant de surfer sur le phénomène qui est devenu Punch. Ces mêmes marques accusées de détruire la planète et notamment l'habitat naturel des macaques comme Punch. Une hypocrisie des multinationales qui en a fait réagir plus d'un. Résultat, cette mobilisation en ligne a suscité l'intérêt des associations de protection animale, parmi elles PETA, qui va relayer l'histoire de Punch pour sensibiliser le public aux besoins des animaux en captivité. Pétitions, discussions, prises de parole, la conversation s'est ouverte au-delà de l'espace commentaire TikTok. Le zoo, déjà visé depuis quelques années sur les conditions de vie de ses pensionnaires, est aujourd'hui dans la tourmente, suite à cette mobilisation.
Alors, je t'ai bien écouté jusque-là et j'ai pas saisi la bonne nouvelle.
Alors, ce qui est très encourageant dans cette nouvelle, c'est que l'histoire, elle laisse place à un mouvement plus large à l'écart des réseaux sociaux. Partout dans le monde, les questions du bien-être animal, elles vont prendre de plus en plus de place dans le débat public. Et ça, si vous voulez la vie de Café Noisette, c'est pas trop tôt. Plusieurs pays ont déjà renforcé les règles sur la captivité des animaux sauvages. Et ça ne saurait que s'améliorer dans les années à venir. Alors oui, Punch ne s'imaginait pas devenir une star d'Internet, mais son histoire a eu un véritable impact. Comme quoi, parfois une simple vidéo peut faire bouger les choses. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Évidemment, on souhaite tous à Punch de s'intégrer, mais aussi de meilleures conditions de vie.
Merci Lucie pour cette chronique de la Good News Internationale. C'est malheureusement la fin de Café Noisette pour ce mois-ci. Mais avant de se quitter, voici les événements proposés par l'AESP qui arrivent. Tout d'abord, le 24 mars, nous organisons un clean run. Ce sera l'occasion de nettoyer le parc Saint-Pierre en marchant ou en courant. Ensuite, la première semaine d'avril, nous organisons la soirée de fin d'année. Puis, comme à l'habitude maintenant, tous les 15 jours, vous aurez le club course de l'AESP. Le 31 mars, il y a le concours oratoire de l'association. Et puis le 2 avril, la conférence sur les LGBT-phobies. Nous organisons également, sans date pour le moment, mais restez branchés, ça va arriver, un ciné-débat avec le documentaire The Mad Dog of Europe au ciné Saint-Leu. Et puis finalement, à la fin du mois de mars, nous organisons notre voyage annuel à Vienne et ce sera l'occasion de vous préparer une émission spéciale pour la fin de l'année, Café Viennois. Merci à tous pour votre écoute, c'était Café Noisette sur Radio Campus Amiens 87.7 FM. Rendez-vous le mois prochain pour le quatrième épisode.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire.
Because you can't be do what we want to do.
Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon.
Voilà, nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien. Mais c'est pas grave, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer.